Et merci d'être avec nous à l'écoute de RFI à midi et demi, temps universel, 14h30 à Bukavu. C'est l'heure d'Afrique Midi. C'est avec vous, Nicolas Brousse. Bonjour.
Bonjour Charlotte, bonjour tout le monde. Nous ferons le point sur la situation dans l'est de la République démocratique du Congo. Nous serons en direct de Kinshasa avant d'entendre le témoignage d'un commerçant de Bukavu. Le sommet de l'Union africaine vient de mettre en garde contre une balkanisation de la RDC. Les membres de l'UA ont avant cela désigné les nouvelles têtes de l'organisation. Le Djiboutien Mahmoud Ali Youssouf est président de la commission, l'Algérienne Selma Haddadi, vice-présidente. Au Mali, c'est une ruée vers l'or, une fois de plus meurtrière, au moins 48 morts, la plupart des jeunes femmes, après l'effondrement d'une mine exploitée illégalement. Les assises nationales ont débuté ce week-end au Niger. Elles doivent fixer la durée de la transition, un an et demi déjà après la prise de pouvoir par les militaires. C'est d'ailleurs le général Tchani qui a prononcé le discours d'ouverture, nous l'entendrons. À suivre également l'ex-premier ministre de l'île Maurice, arrêté dans une affaire de blanchiment d'argent présumé. Et puis un peu de Sénégal au Stade Rennais, et cela fait du bien au club français qui sort des limbes de la première division de football grâce à son nouvel entraîneur, l'international sénégalais Habib Bey. Afrique Midi, le grand journal Afrique, bienvenue, on tourne ensemble la première page. À son tour ce dimanche, Londres dit craindre un conflit régional plus large. L'arrivée de combattants du M23 et de troupes rwandaises à Bukavu est une escalade sérieuse, selon les termes du communiqué du ministère des Affaires étrangères britannique. Pauline Azidi, vous êtes l'envoyée spéciale permanente des RFI à Kinshasa. Les M23, épaulés par les militaires rwandais, ont en effet poursuivi leur avancée dans le sud Kivu. Pauline, après une journée de flottement, ils sont désormais dans la capitale de la province, mais la situation reste confuse.
Oui, ce matin, un porte-parole de l'armée confirmait la présence du M23 et des militaires rwandais dans la capitale provinciale, présence dans plusieurs quartiers, notamment au poste frontière avec le Rwanda à Ruzizi 1 et dans les locaux du gouvernorat. Vendredi soir déjà, une source gouvernementale congolaise avait évoqué l'entrée du groupe en ville, mais samedi, les informations étaient très confuses. Plus de présence vraiment signalée, pas d'armée congolaise non plus, des scènes de pillage ont été rapportées. En début de soirée, des militaires FRDC étaient même de nouveau dans la ville, une information reprise par une communication de la présidence qui avait convoqué samedi soir un conseil de crise. Dans la nuit, des tirs ont été entendus jusqu'à la frontière avec le Rwanda et ce matin, des colonnes de rebelles étaient signalées en ville.
Paulina, vous êtes à Kinshasa, la capitale, où là la situation est calme, même si des appels à perturber les cultes avaient été lancés pour ce dimanche.
Oui, c'était en réaction de la mission de consultation que mènent actuellement des responsables des églises catholiques et protestantes. Ils se sont rendus cette semaine à Goma pour rencontrer les leaders du mouvement AFC M23, à Kigali, où ils ont vu le président Kagame. Consultation qu'ils poursuivent en ce moment même à Bruxelles. Pour ce dimanche, les autorités congolaises avaient été très claires ces derniers jours. Le gouverneur de Kinshasa a rappelé à la télévision publique que les rassemblements étaient toujours interdits dans la ville depuis les débordements du 28 janvier, appel au calme lancé par le ministre de la Communication, Patrick Muyaya, mais aussi par le chef du parti au pouvoir, Augustin Kabeya, président de l'UDPS. Néanmoins, des mesures avaient été prises par les forces de l'ordre pour sécuriser les cultes. Pas d'incident signalé ce matin. La circulation en ville est fluide, comme un dimanche normal. Les magasins qui, hier soir, avaient fermé un peu plus tôt que d'habitude, étaient normalement ouverts ce matin.
Pauline Azidi, en direct de Kinshasa. Kinshasa qui ne sera pas desservie ni aujourd'hui ni demain par Air France. La compagnie française maintient son vol vers Brazzaville, mais l'avion ne fera pas d'escale en RDC. Pas de raison officiellement évoquée. Amira Swilem a joint ce matin un hôtelier de Bukavu. D'après ce qu'il voit, la situation semble un peu plus calme ce matin. Le M23 chercherait à gagner la confiance de la population. Il s'exprime de façon anonyme pour des raisons de sécurité.
Les amis du M23, ils sont arrivés le matin. Ils ont parlé avec quelques gens au niveau de la place de l'indépendance en disant d'aller se mettre à la maison, à l'abri d'abord, le temps qu'ils ratissent la ville. Parce que hier, nous étions sous le feu de nos jeunes enfants qui étaient au niveau du camp Sayo. Les enfants et les militaires, quand ils quittaient la ville, ils ont pillé sauvagement la ville, vraiment. Présentement, la population derrière eux, ils ne font que regarder seulement et applaudir, mais je ne sais pas ce qui se trouve dans le cœur. Le cœur, on pleure quand même, on pleure. En fait, moi, je pense que tout le monde voulait qu'il voit le phare de se remporter, la victoire. Et tout le monde pensait qu'avec la négociation ou la diplomatie, ça peut aller même. Dommage, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. On pleure de voir que les Rwandais prennent la ville. Hein.
Et pendant ce temps se poursuit le sommet de l'Union africaine à Addis Abeba. L'UA qui met en garde ce matin contre une balkanisation de la RDC. Nous ne voulons pas de cette balkanisation. Ce sont les mots exacts lors de sa conférence de presse du commissaire à la paix et la sécurité de l'UA, Bankole Adeoye. Il appelle au retrait immédiat du M23 et de ses partisans de toutes les villes occupées, sans toutefois nommer le Rwanda. Il assure que l'Union africaine est prête à jouer le rôle de médiation. En attendant, hier, les 55 pays membres ont avancé sur la création d'une agence de notation financière panafricaine. Ils considèrent que les agences internationales telles que Standard & Poor's ou Moody's ont des biais injustes conduisant à des notations faussées. Or, une bonne note de la part de ces agences est cruciale pour l'accès aux capitaux internationaux. Pour en savoir plus, un article vous attend sur RFI.fr. Clotilde Azar, vous êtes notre correspondante en direct d'Addis Abeba. Hier également, les chefs d'État et de gouvernement ont désigné les nouvelles têtes de l'UA, le nouveau président de la commission, on va y revenir, et la vice-présidente, l'Algérienne Selma Haddadi. Pour appuyer cette candidature, le président algérien Abdelmadjid Tebboune a fait le déplacement en Éthiopie. Et Clotilde, cela semble avoir donc payé.
Oui, et quand elle a réagi à chaud, Selma Malika Haddadi a parlé de sa victoire comme celle de son pays. Le soutien de son président, présent lors de ce sommet, y a certes sûrement participé, mais elle la doit aussi à son CV bien fourni. Diplomate depuis presque 20 ans, elle jouit d'une bonne réputation à l'Union africaine. Cela fait 7 mois qu'elle est installée à Addis Abeba en tant qu'ambassadrice de l'Algérie auprès de l'organisation, mais elle y avait aussi été représentante permanente adjointe pendant 4 ans, entre 2015 et 2019. C'est aussi la première femme à avoir accédé à la fonction de directrice générale pour l'Afrique dans son pays pendant un an, après avoir passé 3 ans en tant qu'ambassadrice au Kenya. Elle a aussi représenté son pays auprès des Nations Unies pour les programmes de l'environnement et de l'habitat. Décrite comme rigoureuse, grande travailleuse et très bonne négociatrice, ses proches lui prêtent une grande capacité à forger des alliances. Elle cochait toutes les cases pour gagner, nous a confié l'un d'entre eux. Selma Haddadi obtient un poste stratégique au sein de l'UA et à forte responsabilité. Elle supervisera le recrutement dans l'administration de l'organisation et la distribution du budget dans les différents organes.
Clotilde Azar, correspondante des RFI en direct de la capitale éthiopienne. Avant cette élection, c'était hier également celle du président de la commission. Il a fallu 7 tours pour départager les 3 candidats et c'est finalement l'outsider, le Djiboutien Mahmoud Ali Youssouf, qu'il a emporté avec 33 voix sur 49. Le candidat kényan Raila Odinga partait pourtant en tête au premier tour. Figure de l'opposition dans son pays, ancien Premier ministre, voilà qui explique que cette candidature était suivie de près à Nairobi, où sa défaite suscite moult réactions. Sur place, Alban Tiroir.
C'est devant la presse que Raila Odinga a concédé sa défaite hier. « Je compte désormais rentrer à la maison, plusieurs choses m'y attendent », a-t-il conclu. Rentrer à la maison et retrouver son rôle d'opposant historique, c'est justement l'appel qu'ont lancé ses soutiens au micro des chaînes de télévision kényanes. D'autres sur les réseaux sociaux ont au contraire appelé ce vétéran de 80 ans à se retirer de la politique. « Il faudra qu'il se réinvente », affirme un analyste, rappelant que Raila Odinga a bénéficié du soutien de son ancien rival, William Ruto, pour cette course à la présidence de la Commission de l'Union africaine. La campagne a été active, aussi bien par le candidat déchu que le chef de l'État. Tous deux avaient multiplié les rencontres pour allier des soutiens. Cette défaite, c'est donc une surprise pour certains au Kenya, un revers diplomatique pour William Ruto. Les commentateurs politiques mettent en avant plusieurs facteurs. Les dynamiques des différents blocs du continent d'abord, puis la langue. Mahmoud Ali Youssouf parle arabe, français et anglais. Il est aussi plus jeune, âgé de 59 ans. Son profil d'ancien ministre des Affaires étrangères, enfin, a également pu jouer en sa faveur. William Ruto l'a en tout cas félicité pour sa victoire, l'assurant du soutien du Kenya. Alban Tiroir, Nairobi, RFI.
12h39 en temps universel et au Mali, important producteur d'or, le métal précieux contribue à 1/4 du budget national. Le Mali endeuillé par un nouveau drame dans le secteur de l'orpaillage clandestin. Au moins 48 personnes sont mortes dans l'effondrement d'une mine d'or, autrefois exploitée par une entreprise chinoise mais devenue artisanalement et illégalement exploitée. Serge Daniel, vous êtes notre correspondant régional. Le drame a eu lieu dans l'ouest du pays.
Situé dans la région de Kaï, dans l'ouest du Mali, le site d'orpaillage était principalement exploité par des ressortissants chinois sans les autorisations nécessaires. Un responsable de l'association qui s'intéresse au secteur de l'orpaillage dans la région de Kaï donne plus de détails.
C'est une activité qui se déroule illégalement. Selon nos représentants qui sont sur le terrain, les femmes sont rentrées sur le site chinois qui s'est éboulé en leur poussant au fond du trou. Et dans le trou, il y avait de l'eau. C'est ce qui a amené ce drame.
Sur les 48 morts après l'éboulement, tous des Maliens, 44 femmes et un enfant mort au dos de sa mère. Les autorités locales se sont rapidement rendues sur les lieux pour les premiers secours, mais sans véritable grand moyen. L'orpaillage illégal attire du monde dans les régions du Mali. En janvier dernier, un précédent éboulement survenu dans le sud avait causé la mort de plus de 70 personnes. Serge Daniel, Dakar, RFI.
Au Niger, 18 mois après l'arrivée au pouvoir des militaires, c'est enfin parti pour les assises nationales. Lors de son discours inaugural hier, le général Tchani a réaffirmé que la durée de la transition serait fixée à l'issue de ce rendez-vous qui a lieu à Niamey pendant 5 jours. Après la cérémonie d'ouverture à laquelle étaient présents gouverneurs, leaders religieux, représentants de la société civile, mais aussi délégations du Burkina Faso et du Mali, les 5 commissions se sont réunies pour débuter les travaux, Eva Massi.
Devant une salle comble, le général Abdourahamane Tchani a ouvert ses assises nationales sur un court discours, retransmis à la télévision nationale, dans lequel il a rappelé les objectifs de l'événement.
1. Définir les principes fondamentaux devant régir notre transition. 2. Définir la période de la transition. 3. Définir les priorités nationales durant la transition. 4. Rappeler les valeurs fondamentales devant guider la refondation de la République.
Le chef des militaires au pouvoir a ensuite précisé que si l'organisation de ces assises avait pris autant de retard, c'est parce que le Niger fait face, je cite, à l'animosité de certaines puissances occidentales et leurs complices africains. Abdourahamane Tchani est ensuite reparti au palais et les 5 commissions se sont réunies pour se mettre au travail. Des délégations officielles du Burkina Faso et du Mali étaient présentes, ainsi que l'ancien président Issoufou Mahamadou, qui s'est ensuite envolé pour le sommet de l'Union africaine à Addis Abeba. Quant à l'ancien premier ministre Ibrahim Hassan Mayaki, dont la présence était annoncée, il était finalement absent, tout comme les représentants des partis politiques suspendus depuis juillet 2023.
Dossier suivi par Eva Massi, les autorités nigériennes auxquelles s'adresse l'otage Alassane Souleymane, un haut fonctionnaire nigérien enlevé le 11 janvier dernier par des hommes armés. Dans une vidéo enregistrée cette semaine, on le voit assis dans une chambre leur demandant de se pencher sur son cas. C'est le premier signe de vie d'Alassane Souleymane depuis qu'il a été enlevé dans son jardin, non loin du parc du W, une zone sous contrôle de l'EIGS au sud du Niger, à la frontière avec le Bénin. À Maurice, l'ex-premier ministre est depuis hier soir sous le coup d'une arrestation. Pravindé Jugnauth est soupçonné de blanchiment d'argent. Cela fait suite à la saisie de 4 valises remplies de 114 millions de roupies selon les enquêteurs, soit la coquette somme de plus de 2 millions d'euros. Correspondance à Port-Louis d'Abdoulaye Rali.
La police mauricienne a été fortement mobilisée hier après la découverte de 4 valises suspectes chez un opérateur du secteur touristique. Ces bagages contenaient plus de 2 millions d'euros répartis dans une dizaine de devises. Les documents saisis ont rapidement orienté l'enquête vers l'ancien premier ministre Pravin Jugnauth. Son domicile a été perquisitionné et lui ainsi que son épouse ont été longuement interrogés à la commission contre les crimes financiers. Les enquêteurs n'ont pas précisé quel lien concret existe entre ces valises et l'ancien chef du gouvernement. Ils indiquent toutefois que 10 perquisitions ont eu lieu hier et outre Pravin Jugnauth, 3 autres personnes ont été arrêtées. L'ancien premier ministre de Maurice a passé la nuit en cellule et sera présenté devant le tribunal de Port-Louis aujourd'hui pour sa mise en accusation provisoire pour blanchiment d'argent présumé. Depuis l'arrivée du nouveau gouvernement en novembre dernier, c'est la 4e arrestation majeure, dont celle de l'ancien gouverneur de la Banque de Maurice pour malversation présumée. Abdullah Erali, Port-Louis, RFI.
Midi 44 à Dakar, où l'on va vivre ce dimanche à l'heure de Rennes. Son équipe de football qui évolue en Ligue 1 et est désormais entraînée par un certain Habib Bey. Et en 2 semaines, l'ex-international a permis à son club d'adoption d'enchaîner 2 victoires en 2 matchs. Le Stade Rennais est ainsi remonté à la 12e place du championnat français. Des débuts réussis de l'ancien défenseur des Lions qui suscite également un grand engouement au pays. Confirmation avec à Dakar, Wani Johnson Sambou.
Stade Rennais, ouais, parce que c'est Habib Bey, c'est un compatriote. On le suit partout.
On est certes loin de la passion autour de l'Olympique de Marseille ou du Paris Saint-Germain, mais le Stade Rennais voit sa cote de popularité grimper au Sénégal depuis l'arrivée d'Habib Bey sur le banc de l'équipe première. À Dakar comme ailleurs dans le pays, Rennes a conquis les cœurs.
En tant que Sénégalais, je le soutiens à 100%. Il a apporté un plus parce que Rennes n'était pas bien. Dès son arrivée, ils ont enchaîné 2 victoires.
Je pense que je vais désormais suivre vraiment cette équipe et le supporter à fond.
Désormais, chaque sortie des Rennais est scrutée à la loupe par les Sénégalais. Et les débuts en fanfare de l'ancien défenseur des Lions façonnent davantage son image et suscitent une grande euphorie dans les médias et sur les réseaux sociaux. Papou Mar Diop, coach dans une académie de foot à Dakar, voit grand pour le technicien sénégalais.
Au Red Star, on le suivait parce qu'avec ses idées, même sur les chaînes qu'il faisait consultant, il était pertinent dans ses interventions. S'il arrive à transmettre ça aux joueurs, il fera du bon boulot et on le souhaite tout le bonheur qu'il réussisse sa mission là-bas.
Pour rappel, avant l'arrivée d'Habib Bey, le Stade Rennais restait sur une série de 5 défaites consécutives. Une 3e victoire de suite ce dimanche renforcerait encore l'engouement autour du technicien sénégalais, d'autant plus face à Lille qui est d'un autre calibre que Strasbourg et Saint-Etienne. Wahani Johnson Sambou, Dakar, RFI.
Et vous qui nous écoutez à Dakar, pas besoin de couper la radio, le match Rennes-Lille c'est tout à l'heure à 19h45 TU, c'est-à-dire dans pile 7h.
Afrique Midi, Nicolas Brousse.
Dimanche 16 février, merci de rester avec nous pour la partie magazine. Nous prendrons l'Afrique en marche avec Frédéric Gara, une entreprise qui fabrique couches culottes et serviettes périodiques recyclables et cela fait toute la différence. Les chemins d'écriture nous baladeront entre rire, ironie et un soupçon de fantastique avec un recueil de nouvelles d'une écrivaine martiniquaise. Nous irons la rencontrer avec Tiertan Karchanda. Et puis 100% création, Maria Afonso nous présente un céramiste algérien qui a développé son style entre influences européennes et maghrébine.
L'Afrique en marche.
Direction donc ce dimanche le Sénégal. Happy Afrique est une PME sénégalaise qui depuis 2010 fabrique des couches culottes et des serviettes hygiéniques recyclables. Grâce à leur invention, 3 problèmes sont résolus: l'hygiène des enfants et des femmes, le respect de l'environnement et le pouvoir d'achat parfois faible des mamans. Chronique signée Frédéric Gara.
En 2010, Marine Ying, à la naissance de ses enfants, s'interroge sur l'usage des couches culottes puis des serviettes hygiéniques pour ses filles. Des produits chers, quasi impossibles à recycler au Sénégal. Mais sur place, il y a du coton, il y a du wax et surtout, il y a plein d'idées. Avec son mari, Abdoulaye, ils vont donc lancer une gamme de produits Made in Sénégal qui réunit 3 critères essentiels à leurs yeux.
C'est vrai que nous, nos motivations pour créer Happy Afrique, c'était vraiment participer à la réduction des déchets, créer des emplois décents pour les femmes au Sénégal et participer aussi à préserver la santé.
Fabriquées dans leur atelier de Ngaparou, qui est passé de 4 à 30 employés en 15 ans, les protections hygiéniques d'Happy Afrique sont réutilisables. De plus, leur usage répond à plusieurs problématiques au Sénégal.
Il y a le quand dira-t-on ? Est-ce que la fille est enceinte ? Est-ce qu'elle n'est pas enceinte ? Est-ce qu'elle a des relations hors mariage ou pas ? Et il y a aussi tout le mysticisme, et on y pense rarement, mais en fait, on ne veut pas que des gens qui nous veuillent du mal puissent trouver notre sang des règles. C'est pour ça que les filles vont laver à fond la serviette jetable avant de la jeter pour que personne ne puisse utiliser le sang des règles pour faire de la magie avec. En fait, le problème des couches et des serviettes hygiéniques, c'est que c'est un besoin absolu. C'est pas une option. On peut pas décider d'en avoir besoin ou pas. Et c'est des produits en version jetable qui sont du consommable, donc qui sont à racheter tout le temps. Donc effectivement, ça représente un poids considérable sur les budgets des jeunes filles, des femmes et des familles avec les bébés. Et en plus, ça crée des gros problèmes de pollution dans un pays où il n'y a pas vraiment de solution de gestion des déchets.
Alors, la serviette hygiénique réutilisable Happy Afrique, elle se présente comme ceci, avec 3 éléments.
Le site internet de la marque propose des tutoriels en français et en wolof pour les usagers. Kiné Riquet est une cliente sénégalaise convaincue de l'utilité d'un tel produit recyclable sur le marché.
Ah non, mais complètement, complètement. Moi, je pense que c'est juste, il faut communiquer un peu plus, que les Sénégalais soient plus au courant de l'existence de ces produits et à des prix qui restent quand même abordables. Parce que quand on calcule le coût des paquets tous les mois, tout au long de l'année, moi je pense que ça reste quand même très intéressant.
Dans sa vie, une femme utilisera en moyenne 8000 protections périodiques, ce qui donnera lieu à 1 tonne de déchets. Les serviettes hygiéniques recyclables sont donc une idée louable à développer, selon le gynécologue Abdoulaye Diop.
Le gros intérêt, c'est d'avoir un intérêt écologique. Utiliser des serviettes recyclables permet justement d'économiser des centaines de tonnes de serviettes hygiéniques qui vont se balader dans la nature. Le deuxième intérêt, c'est évidemment l'intérêt médical. Il y a ce que nous appelons la précarité menstruelle, les difficultés que beaucoup de jeunes filles ont, surtout dans le milieu rural, à avoir des serviettes hygiéniques de bonne qualité. Lorsque des bouts de tissu sont utilisés pour recueillir le sang des règles, ou lorsqu'il y a des problèmes de disponibilité de l'eau, ça crée beaucoup de problèmes. Et donc, les serviettes hygiéniques lavables viennent un peu répondre à ça et apporter une alternative, aussi bien écologique, médicale que durable dans le temps.
Différentes études évaluent à 2500 euros, 1 600 000 francs CFA, le coût total de l'usage de serviettes hygiéniques dans la vie d'une femme. Le prix des serviettes réutilisables en coton revient lui à 450 euros, 295 000 francs CFA pour la même période, soit presque 6 fois moins.
L'Afrique en marche.
Chronique de Frédéric Gara chaque semaine sur notre antenne et quand vous le voulez sur RFI.fr. À 12h50, temps universel, nos dernières infos du monde. L'attaque au couteau perpétrée dans le sud de l'Autriche hier par un demandeur d'asile syrien et qui a tué un adolescent et blessé 5 autres personnes est d'origine islamiste. L'attaquant avait des liens avec l'État islamique, c'est ce qu'indique ce matin le ministre de l'Intérieur. C'est un autre Syrien, un livreur, qui a percuté l'assaillant et qui a empêché qu'il fasse d'autres victimes, précisent les autorités autrichiennes. Un an après la mort en prison d'Alexeï Navalny, principal opposant au Kremlin, plus d'un millier de ses partisans ont osé se recueillir sur sa tombe à Moscou ce matin. Sa mère demande que les responsables de son meurtre soient punis. Le monde entier connaît le commanditaire, mais nous voulons que soient connus les exécutants, selon ses termes. Le secrétaire d'État américain Marco Rubio étant en Israël, il discute en ce moment avec Benjamin Netanyahou, le premier ministre israélien. L'Iran, disent-ils, est la principale source d'instabilité dans la région. Et puis le pape François a assisté ce matin à la messe à l'hôpital où il a été admis vendredi pour une bronchite. Il a renoncé à la traditionnelle prière de l'Angélus depuis le balcon de la place Saint-Pierre de Rome. À 88 ans, il préserve ses forces pour l'année jubilaire. Les chemins d'écriture entre rire, ironie et un soupçon de fantastique. 16 nouvelles sous la plume de l'écrivaine martiniquaise Gaëlle Octavia, auteure de théâtre, romancière, nouvelliste. Elle a déjà plusieurs titres à son actif, mais elle s'est fait connaître en publiant en 2017 son premier roman. Son recueil de nouvelles, L'étrangeté de Mathilde T et autres nouvelles, vient de paraître dans la collection Continent Noir chez Gallimard. Pour commencer, Tirthan Karchanda, la voix de l'autrice.
La nouvelle, c'est vraiment un genre littéraire que j'aime beaucoup. Certaines des nouvelles de ce recueil ont été écrites il y a un certain nombre d'années. D'autres sont très récentes. J'ai sélectionné, parmi toutes les nouvelles que j'ai écrites, celles qui me semblaient avoir un fil directeur commun, finalement, qui est cette étrangeté des situations ou des manières dont les personnages font face à certaines situations.
Ainsi parle Gaëlle Octavia, auteure de « L'étrangeté de Mathilde T. » et autres nouvelles qui vient de paraître ces jours-ci. Les 16 nouvelles que compte ce recueil sont autant de diamants taillés, denses, lumineux d'observations sur la société martiniquaise, ses hommes et ses femmes. Il s'agit ici surtout de femmes, car la plupart des nouvelles sont centrées autour des figures de femmes au bord de crise de nerfs. La nouvelle inaugurale qui a donné le titre du recueil illustre tout l'art de cette autrice. En fait, Gaëlle Octavia pratique un art de narration au second degré. Mathilde T, la protagoniste de sa première nouvelle, est l'héroïne d'un roman raté. À travers les excès, la fragilité, sa manière de se situer de façon décalée par rapport au monde dans lequel celle-ci évolue, l'auteur raconte sa propre négritude, son être dans le monde réduit à son accent martiniquais et à son exotisme sévèrement jugé par le monde blanc dans lequel elle a choisi de vivre. Gaëlle Octavia.
Ce personnage de Mathilde T m'est venu lors de mon arrivée à Paris, puisque moi j'ai grandi en Martinique, je suis arrivée à Paris après le bac pour faire mes études. C'est une nouvelle qui est, on va dire, semi-autobiographique. Je me suis heurtée à un double décalage, c'est-à-dire le décalage de ma propre perception de moi-même en tant qu'issue d'un département d'outre-mer français. Donc en gros, j'ai grandi en me pensant française et j'ai découvert à Paris que j'étais peut-être pas si française que ça. Et puis l'autre décalage, c'était que cette étrangeté qui était la mienne finalement, dans le regard des autres, elle m'allait très bien. L'étrangeté est à plusieurs niveaux dans cette nouvelle, et je me suis beaucoup amusée, j'avoue, à l'écrire.
Les femmes semblent occuper dans ces nouvelles une place centrale.
profondément marqué par les lectures de Marie Scondé, de Toni Morrison ou encore de Marguerite Duras, Gaëlle Octavia a fait de son écriture un véritable panthéon dédié aux femmes de son pays et à leur combat contre la société patriarcale. Gaëlle Octavia.
Moi, je me définis absolument comme une féministe. Le point de vue féminin, ça c'est très présent dans mon éducation. J'ai grandi dans un foyer avec un père très présent. C'était un père qui s'occupait de ses enfants. Quand je sortais de chez moi, je voyais beaucoup de foyers où c'était pas ça. Notamment beaucoup de foyers où il y avait tout simplement pas de père. Ça m'a très vite amené à m'interroger sur ce que ça signifiait, tous ces foyers sans père, ce mythe notamment du poteau mitant que oui. Je m'applique à déconstruire de texte en texte. Il y a vraiment ce mythe de la femme qui porte sa famille et qui porte la société d'une certaine manière et qui serre les dents et qui ne pleure pas. Et moi, je voyais beaucoup de femmes qui n'y arrivaient pas, qui déprimaient. Pour moi, c'était une urgence d'évoquer ça.
C'est sans doute ce qu'on appelle la littérature engagée. La fidélité sans faille de Gaëlle Octavia aux femmes de la Martinique se lit jusque dans les titres de ses ouvrages. Ce n'est sans doute pas accidentel si son premier roman s'appelle « La bonne histoire de Madeleine Demetrius », suivi de « La fin de Mam Baby », titre de son second roman. Et c'est le nom d'une certaine Mathilde T. qui orne la couverture de son anthologie de nouvelles.
Gaëlle Octavia a donc écrit « L'étrangeté de Mathilde T. et autres nouvelles » qui vient de paraître aux éditions Gallimard, collection Continent Noir, et c'est donc le coup de cœur de Tirthankar Chanda. 100% création présente Taoufik Boumedi, céramiste algérien dont les œuvres fusionnent son héritage familial avec son exploration personnelle. Il a su créer un style unique alliant influence européenne et maghrébine. Maria Fonso l'a rencontré lors de son passage à Paris où une exposition présente une partie de ses œuvres.
Les plus belles réalisations, c'est que j'étais libre de faire. Quand on vous dit « je vous fais confiance », là il y a une pression quand même, mais j'y vais, j'ai pas peur. Il faut que ça corresponde déjà à ma vision. Et si ça correspond à la vision du propriétaire, alors là, c'est le grand bonheur.
Taoufik Boumedi, artisan d'art, céramiste et faïencier.
Je ne crois pas avoir été souvent vraiment satisfait de mon travail. Je me dis toujours, il y a un petit truc à faire en plus.
Né dans le village de Berouaghia, à 100 km d'Alger, en Algérie, Taoufik Boumedi a grandi au contact de la céramique grâce à son père, Mohamed Boumedi, surnommé le carreleur du ciel. Celui-ci a joué un rôle fondamental dans sa passion et son parcours professionnel. Ses études aux arts décoratifs à Limoges et ses voyages à travers le monde ont profondément influencé le travail de Taoufik Boumedi, lui permettant de mélanger différentes cultures et styles dans ses créations.
C'était pas pour apprendre plus de choses, mais c'était surtout pour me dissocier un peu de sa façon de voir la céramique et donc de faire mon parcours. Entre ce qu'il m'a appris et ce que j'ai appris, ça a fait une céramique qui m'est personnelle. J'ai appris beaucoup avec les rencontres, ce que j'ai vu des autres. Ça va jusqu'au 9e siècle, jusqu'à la céramique turque, en passant par la céramique espagnole, italienne, française. Après Limoges, j'ai remarqué que ma céramique, il y avait un côté européen, un côté maghrébin, tout ça, c'était ce mélange de tout ce qui m'a plu, tout ce qui m'a touché, c'est un peu universel.
Taoufik Boumedi considère chaque commande comme un défi et une opportunité d'exprimer son art.
Il y a quelqu'un qui vient me voir, j'ai une façade, j'ai un meuble, et là je regarde et je me dis, il n'y a pas assez de lumière, il faut quelque chose de lumineux. Si je vois qu'il y a beaucoup de couleurs, il faut essayer d'en mettre moins. Des fois c'est floral parce que c'est un style qu'il demande. Des fois quand je vois une maison mauresque, bon là je me régale, c'est aussi moi ma spécialité. Donc je vais sur des fresques avec beaucoup d'arrondis. Ma particularité c'est que je mets pas énormément de couleurs. Je travaille beaucoup avec les bleus, les turquoises, très peu de jaune. C'est des couleurs de mes ancêtres dans la céramique. C'est des oxydes métalliques, donc du cobalt, du cuivre, du chrome, le bleu de Delphes. Mais quand on me demande des choses qui me semblent pas me correspondre, je botte en touche des fois, ça m'arrive.
Retrouvez l'univers de Taoufik Boumedi sur RFI.fr, chronique 100% création, et en podcast sur RFI Pure Radio.
Et c'est la fin de cette édition d'Afrique Midi. Elle aussi se retrouvera dans quelques instants sur RFI.fr et nos applications RFI Pure Radio. Une édition mise en onde par Benoît Raymond, rédaction en chef, l'homme de l'Afrique en marche, Frédéric Gara avec Cécile Périllard. À suivre le journal international en français, sauf en Afrique de l'Ouest où vous attendent 30 minutes d'informations en full day. Et en Afrique lusophone où vous avez rendez-vous avec une demi-heure d'infos en portugais. C'est aussi ça la richesse de Radio France Internationale. On n'oublie pas, mais vous le savez, j'en suis sûr, la première édition d'Afrique Soir à 18h30 TU. Ce sera avec Zéphirin Quadio et toute l'équipe. D'ici là, portez-vous bien et merci à vous d'écouter Radio France Internationale.
Priorité santé. Caroline Paré vous invite à poser vos questions sur les thèmes de cette semaine. Demain,
toutes vos questions en direct sur l'activité physique et la santé.
Mardi.
Quand l'écriture guérit, un refuge, une thérapie.
Contactez-nous sur WhatsApp au 33 7 61 18 46 41 ou à priorité.santé@rfi.fr.
Priorité santé avec Suno Assurance.
Du lundi au vendredi à partir de 9h10 TU sur RFI.
BPM.
Bonne pulsation du monde avec Hortense Vol.
Cette semaine, nous allons voyager en chanson au Ghana, au Venezuela ou encore au Portugal pour répondre à cette question cruciale. Comment la notion de freestyle a-t-elle évolué dans l'histoire du rap? Tout ça avant de partir en live à Madagascar.
Bonne pulsation du monde avec Hortense Vol, tout à l'heure à 14h10 TU sur RFI.
BPM,